Très beau dimanche après-midi sur France Culture. Sur un pouf, sur la moquette ou dans son lit, on bulle avec Victor Massé de l'Épinay.
Le rayon BD, Alan Moore, le magicien. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le Rayon BD, l'émission de bande dessinée de France Culture pour cette première émission de l'année 2021. L'occasion pour toute l'équipe, Pascaline Bonnet, Alexandre Manzanares et moi-même de vous présenter nos meilleurs vœux à vous tous qui nous écoutez chaque dimanche en direct ou en balado-diffusion. Que vous soyez lecteur de bande dessinée ou que vous ne le soyez pas, c'est aussi pour vous que nous faisons ce Rayon BD, pour que vous ayez l'envie, une fois ou l'autre, d'en lire une, d'en ouvrir une et pourquoi pas commencer aujourd'hui par exemple en allant chercher dans une librairie ou une bibliothèque un des chefs-d'œuvre de l'auteur dont nous allons parler. Il en a écrit un certain nombre, puisque c'est incontestablement l'un des auteurs majeurs de l'histoire de la bande dessinée. Nous parlons aujourd'hui d'Alan Moore. Alan Moore, auteur anglais d'œuvres incontournables, on peut citer Watchmen, From Hell, V pour Vendetta ou La Ligue des Gentlemen Extraordinaires. Il est également écrivain, musicien, cinéaste, magicien. Il est aussi connu pour ses conflits avec l'industrie du comics et pour son allure de vieux barde hirsute. Il y aurait énormément de choses à dire sur lui et sur son œuvre. 10 numéros du Rayon BD n'y suffiraient pas. Et nous allons donc aujourd'hui parler surtout d'une de ses œuvres dont Urban Comics vient d'entamer la réédition en français. Elle était introuvable depuis longtemps. Ce livre s'appelle Promethea. Il est dessiné par James H. Williams III. Et il y est question de fiction, d'imagination, de mythe et de magie. Nous le ferons avec nos deux invités. Laurent Kessy, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes écrivain, scénariste de bande dessinée, traducteur, et vous avez publié l'été dernier avec Nicolas Trespalais un guide Alan Moore aux éditions Actu SF. Et François Hercouet, bonjour. François Hercouet, êtes-vous avec nous ? Non, François Hercouet n'est pas là, donc on va attendre qu'il revienne et on va commencer avec vous, Laurent Kessy.
Oui.
J'ai dit que Alan Moore était un auteur majeur et incontournable de la bande dessinée. Est-ce qu'en quelques mots, tout simplement, vous pouvez dire à nos auditeurs qui ne le connaissent pas, pourquoi ?
Vous avez cité quelques titres que nos auditeurs connaissent peut-être par le biais, s'ils ne connaissent pas les bandes dessinées, par le biais d'adaptations cinématographiques, qui ne sont d'ailleurs pas souvent pas réussies et que des avoues totalement Moore. On pourrait résumer sa carrière en disant qu'il a dans les années 80 révolutionné complètement la vision de la bande dessinée de super-héros en la faisant passer à ce qu'on a appelé un âge adulte, c'est-à-dire en posant sur ce canevas de la BD des super-héros qui était jusque-là plutôt destiné aux enfants et aux adolescents, des problématiques plus adultes qui se sont depuis perpétuées et jusqu'à aujourd'hui où les lecteurs de super-héros sont essentiellement des jeunes adultes et des adultes.
François Hercouet, vous êtes avec nous ?
J'espère.
Bonjour, vous êtes donc le directeur d'Urban Comics, l'éditeur d'un certain nombre de livres importants d'Alan Moore. Je crois que Watchmen était la première publication d'Urban Comics quand vous l'avez créé. C'est donc vous qui publiez aussi Promethea dont nous allons parler aujourd'hui. Une chose qu'on peut dire sur Alan Moore, c'est qu'il est un des auteurs qui place le médium bande dessinée très haut. On peut évoquer ses liens, ses conflits avec l'industrie du comics, mais c'est pas du tout quelqu'un qui méprise la bande dessinée, bien au contraire, même si aujourd'hui il a arrêté la bande dessinée, il s'intéresse toujours, il croit beaucoup au pouvoir de la bande dessinée.
Ah oui, bien sûr, je pense que ça a d'abord été un lecteur de bande dessinée avant de devenir un auteur. C'est quelqu'un qui s'est vraiment nourri de toute la culture, on va dire transatlantique, enfin toute la culture des comics américains. Il a vraiment, ça a été un vrai fan en fait à la base. Et c'est, on va dire qu'avec tout son historique ou plutôt son mauvais esprit anglais, mais ça serait pas très sympa. Mais on va dire avec toute la distance européenne qu'il avait sur le médium, il a pu poser en fait un regard un peu décalé. Et comme le disait Laurent tout à l'heure, faire, je pense, évoluer un petit peu les registres en fait. donner en fait à lire quelque chose qui était autre chose qu'une simple qu'un simple divertissement.
Alors ce que j'ai appris moi en préparant cette émission, c'est que Alan Moore était aussi un dessinateur. Il était dessinateur à l'origine. Il pensait faire de la bande dessinée autant comme dessinateur que comme scénariste. Comme d'autres, il s'est centré sur le scénario. Mais dans le Prométhée que vous publiez chez Urban Comics, on voit à la fin le script d'un des chapitres entiers, c'est-à-dire le texte tel qu'il l'envoie à son dessinateur James H. Williams III. C'est fascinant à quel point c'est fascinant de voir à quel point tout est pensé, tout est construit par Alan Moore.
Et c'est vrai que parfois on peut à la lecture des scripts d'Alan Moore, on peut penser qu'effectivement on est en face d'un scénariste ou un dessinateur frustré qui par défaut en fait du coup s'est adjoint les services de quelqu'un qui était meilleur que lui en dessin. On peut avoir cette impression là. Après on le voit aussi dans les commentaires dans tout ce qui est hors du script, on voit aussi la liberté qu'il peut donner à ses collaborateurs. Donc c'est aussi quelque chose qu'il faut un peu relativiser. Mais oui, je pense qu'à la base, il imagine visuellement en fait tout ce que on peut voir ensuite imprimé dans les pages des comics.
Nicolas Kessy, encore un mot sur l'œuvre d'Alan Moore. Donc on peut dire qu'elle est énorme, elle est diverse, protéiforme. Il y a des livres plus politiques, d'autres plus fantastiques. Il y a du genre super-héroïque revisité. Il y a de la pornographie aussi. Est-ce qu'on pourrait dire que le thème central qui pourrait relier toutes ces œuvres, c'est une réflexion sur le pouvoir de la fiction, le pouvoir du récit, le pouvoir de l'imaginaire?
C'est ça, c'est exactement ça. Il a commencé, donc on l'a dit, avec il était lecteur enfant adolescent de super-héros, donc il a commencé dans ce domaine. Et puis peu à peu, il était aussi très passionné des comics underground américains, de Robert Crumb, etc. Il est allé plus vers des bandes dessinées indépendantes, comme par exemple ce gros roman graphique qui est Fromel, qui traite de Jack l'Éventreur, donc qui là n'a plus rien à voir avec les super-héros, où là, il se livre à une espèce d'errance psychogéographique dans le Londres de 1888. On voit donc qu'il poursuit son travail sur l'art, sur la poésie, qui va devenir après, peu à peu, un travail sur la magie, l'occultisme. Tout ça est la même chose pour lui. L'art, la magie, voilà. Son travail, c'est sur la création, la conscience, qui l'œuvre dans Watchmen, avec ce personnage du docteur Manhattan qui est différent, qui peut être à différents moments de l'histoire de la temporalité, jusque à Prométhée et jusqu'à son roman, par exemple, Jérusalem aussi, qui mélange aussi des expériences comme ça temporelles. Il travaille exactement la même matière sur différents supports.
On my 40th birthday, rather than merely bore my friends by having anything as mundane as a midlife crisis, I decided it might be more interesting to actually terrify them by going completely mad and declaring myself to be a magician. This had been something that had been coming for a while. It seemed to be a logical end step in my career as a writer. And the problem is that with magic, being in many respects a science of language, you have to be very careful what you say. Because if you suddenly declare yourself to be a magician without any knowledge of what that entails, then one day you are likely to wake up and to discover that that is exactly what you are.
La belle voix grave d'Alan Moore avec son accent des faubourgs de Northampton qui explique donc que le jour de ses 40 ans, plutôt que d'entamer une banale crise de la quarantaine, il a annoncé à ses amis qu'il avait l'intention de devenir magicien. Et comme la magie a quelque chose à voir avec le langage, il ne faut pas dire les choses à la légère. Il est devenu magicien. Laurent Kessy, est-ce que c'est sérieux cette histoire de magie pour Alan Moore?
Ah oui, je pense qu'il a complètement transformé sa vie à partir de cette déclaration. Ce qu'il ne dit pas là dans cet extrait, mais qu'il dit dans d'autres interviews, c'est qu'il était très ivre et qu'il n'a pas fait très attention à ce qu'il disait et que le lendemain il s'est senti obligé de continuer sur cette voie et donc comme il s'était déclaré magicien, de devenir un magicien. En quelque sorte, il l'interprète comme ça. Il a été choisi pour devenir magicien. Oui, c'est quelque chose qui infuse très profondément son œuvre. même avant, mais depuis qu'il l'a déclaré, qu'il s'est trouvé, voilà, parce qu'il s'est trouvé un dieu après, qui s'appelle Glicon, un dieu fictif évidemment, hein, un dieu
qui a existé dans les derniers siècles de l'Empire romain,
au 3e siècle avant Jésus-Christ, je crois.
Ah bon, avant
Jésus-Christ. Serpent avec une tête d'humain, et donc il s'est mis sous la tutelle de ce dieu qu'il vénère, et par son intermédiaire, voilà, il travaille par son intermédiaire sur ses œuvres qui deviennent dès lors des actes magiques, des rituels, des œuvres. Il ne fait pas la distinction entre l'art et la magie. Pour lui, les deux faits, les œuvres d'art comme les rituels sont des moyens profonds de modifier la conscience.
Mais vous qui l'avez interviewé, alors vous nous avez dit que ça avait commencé dans l'ivresse. On sait qu'Alan Moore est un consommateur régulier de certaines drogues, de certains psychotropes, le cannabis en particulier, je crois. Ça peut ressembler aussi à un délire un peu de j'allais dire, de vieux hippie. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour lui d'adorer ce dieu Glicon? Qu'est-ce que ça veut dire de faire une œuvre en lien avec la magie?
Allô?
Oui? Vous m'entendez plus? Laurent Kessy? Et François Hercouet, vous êtes là?
Je suis là, oui.
Bon, alors on va continuer avec vous. Les caprices du direct à distance nous jouent des tours. François Hercouet, en tout cas, ce livre Prométhée dont nous allons parler aujourd'hui, on le présente souvent comme la grande bande dessinée sur la magie d'Alan Moore, mais ça ne commence pas vraiment avec la magie. Ça commence comme une réflexion sur l'imaginaire, sur la littérature populaire, sur la création. Et puis la magie arrive, et là, ça bascule dans quelque chose de complètement inédit. Qu'est-ce que c'est que cette œuvre? Comment est-ce que vous la présenteriez?
Ben, effectivement, c'est quelque chose. Il n'attaque pas avec le sujet de la magie d'emblée, parce que je pense que c'est quelque chose qui demande une certaine initiation, et c'est exactement par ce procédé que le lecteur va entrer en fait dans le cœur du sujet. Là, vraiment, la magie ne va prendre place dans ce qui sera vraiment développé dans ce qui nous constitue le deuxième volume, alors que le premier est vraiment une mise en place un petit peu des éléments, du vocabulaire, de l'environnement, et on va surtout commencer dans un endroit qui est relativement bien balisé, que l'on connaît maintenant à peu près tous grâce ou à cause du cinéma. On va commencer sur le registre super-héroïque. C'est qu'on va vraiment du coup suivre Sophie, qui sera un petit peu notre guide. On va commencer au même niveau qu'elle, donc on va vraiment être complètement ignare un petit peu de toute cette matière, toute la réflexion qui va s'en suivre, et on va voilà l'accompagner progressivement. On va franchir des caps, on va franchir des niveaux avec elle, en partant vraiment de cette culture pop, hein, qui est vraiment le super héros, avec cette espèce de, on pourrait penser cette espèce de d'avatar un petit peu d'un personnage comme Wonder Woman, donc d'un personnage féminin fort, qui en tout cas dont les incarnations vont se succéder au fil du temps. Et puis Sophie va devenir en fait l'une des incarnations de Prométhée, dont les origines remontent, je crois, au 5e siècle après Jésus-Christ. Et on va du coup elle va elle-même en fait comprendre un petit peu toute la portée et la charge aussi de l'héritage que constitue Prométhée.
La magie arrive quand même à partir d'un certain moment dans ce premier livre que vous publiez donc chez Urban Comics, qui contient donc 12 livres sur les 32. Il y aura deux autres tomes. Laurent Kessy, vous êtes de retour avec nous?
Oui, oui.
Et dans votre guide Alan Moore qui est paru donc l'été dernier, vous vous êtes réparti les œuvres avec votre co-auteur Nicolas Trespalet, et j'ai lu quelque part que ça s'était fait en bonne intelligence, mais qu'il n'avait peut-être pas eu le courage de se relancer dans une lecture complète de Prométhée, et que vous vous y étiez mis avec plaisir. Mais est-ce qu'il faut du courage pour se lancer dans cette œuvre?
Alors la vérité, c'est qu'il est moins habitué que moi à lire l'anglais, et je ne sais pas si la traduction était encore disponible. Donc comme moi je l'avais en anglais, voilà, je me suis, et puis que j'adorais cette œuvre, c'est moi qui me suis lancé là-dedans.
Alors hors de ces considérations très pragmatiques, c'est quand même une œuvre particulièrement dense.
Oui, mais je pense que c'est voulu par Alan Moore, qui explique que voilà, il a voulu, il y a très peu d'œuvres didactiques dans les librairies, donc lui il a voulu en faire une et la proposer au public. Et ce qu'expliquait François sur le fait qu'on arrive d'abord par un canevas super héroïque un peu banal, enfin en tout cas balisé, que connaissent les lecteurs, C'est aussi un moyen de, enfin c'est quelque chose que dans les traités ésotériques souvent on a quelque chose qu'il faut, il y a un cap à passer avant d'arriver au cœur du sujet, au savoir caché, à l'occulte. Et Moore suit ce canevas de l'œuvre ésotérique. Souvenez-vous par exemple du pendule de Foucault où il y a toute une longue digression sur un traitement de texte qui est difficile d'avaler avant d'arriver au vrai propos. Ben là c'est pareil, Moore distrait le spectateur, j'ai envie de dire, avant d'arriver au vrai propos de Prométhée, qui est en quelque sorte une sorte de grimoire sur la magie, où il va nous, par le biais du personnage de Prométhée, nous montrer peu à peu, nous faire passer dans toutes les étapes de la magie occidentale des origines à nos jours.
Donc avec la Kabbale, avec les sciences occultes, avec le tarot qui est présent donc dans un des chapitres, déjà le dernier chapitre de ce premier livre. Et en effet, vous avez dit le mot didactique, Laurent Cassis. François Hercouet, on peut dire qu'en effet, Prométhée, il y a quelque chose d'un peu... Moore, on a l'impression qu'il veut mettre tout ce qu'il sait dans cette œuvre, et que donc cette œuvre, pour tous ceux qui aiment Alan Moore, c'est un peu une œuvre clé.
Ah oui, si vous voulez vraiment rentrer dans la tête ou dans le quotidien du barbu de Northampton, effectivement, ça vous donnera certaines clés sur sa manière en fait de voir le monde. C'est que quand, alors Laurent me corrigera parce que je suis moins pointu que lui sans doute sur le sujet, mais de ce que j'ai compris en fait, c'est que Moore fait partie d'une loge, ou en tout cas d'un mouvement qui s'inscrit dans la magie blanche, et donc qui est vraiment dans une magie de protection et voilà, contrairement à d'autres types de magie. Donc on est vraiment, je pense, dans une bienveillance et cette volonté de mettre à disposition tout ce savoir que lui du coup a pu accumuler, des choses qu'il a pu effectivement distiller dans ses précédentes œuvres, mais là il va vraiment consacrer Prométhée au sujet même de la magie. Et effectivement, le douzième chapitre en fait de notre premier tome, pour moi on est vraiment là dans le tremplin. Enfin, c'est quelque chose qui va vraiment vous mettre un petit peu à niveau et vous préparer à vraiment plonger quasiment corps et âme, voire plus, du coup dans ce thème de la magie, puisqu'on va vraiment commencer à avoir là pour le coup, pour moi vraiment le 12e chapitre où on va vraiment étudier chacune des lames du tarot avec une interprétation bien particulière et puis très 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 riche, se fait toujours aussi dans on parlait de didactique tout à l'heure, et on est quasiment dans un procédé maïeutique puisqu'on est, tout se passe beaucoup par le discours. Donc on a vraiment souvent des personnages, un personnage qui va en initier un autre, et tout ça va se faire par le dialogue. Et c'est souvent ce qu'on retient aussi de Prométhée, c'est ce grand dialogue en fait constant où Sophie, en tout cas la nouvelle avatar de Prométhée, en fait ne se fait pas apprendre la vie, mais en tout cas va découvrir par le dialogue les domaines que recouvre la magie.
Et alors ça se fait avec beaucoup de dialogues, avec des dialogues en vers d'ailleurs, puisque ce chapitre-là est entièrement versifié, et avec des pages, des doubles pages qui ne ressemblent pas à de la bande dessinée classique. Ce sont des espèces d'illustrations en pleine page qui mélangent énormément de styles de dessin, de styles techniques aussi. Là-dedans aussi, du point de vue graphique, avec J.H. Williams III, si je le dis à la française, Alan Moore a exploré tout un champ des possibles dans Prométhée. François Hercouet.
Oui, et tout à fait. Et en fait, là, il faut remettre un petit peu de crédit justement au dessinateur, qui n'est pas qu'un faiseur, hein, qui n'est pas juste que le simple exécutant des délires d'Alan Moore. Non, là, on est vraiment sur un auteur qui est déjà venu sur le projet en demandant à ce que l'intégralité, ou en tout cas la majorité des planches, soient faites en double page. Et c'est en tout cas le format que lui a choisi par rapport au thème, pour développer un petit peu en fait à chaque nouvelle double page un nouveau tableau et une nouvelle mise en page. Je trouve vraiment que on parle beaucoup de Prométhée par le prisme d'Alan Moore, mais que le talent de J.H. Williams, qui jusqu'ici en gros ne s'était pas illustré de manière aussi magistrale, là on a vraiment la naissance, l'explosion d'un talent, enfin d'un énorme talent de narration. Et quand on voit le sujet traité par l'auteur tel que on peut connaître Moore dans ce côté ultra ultra précis, je pense qu'il faut vraiment rendre honneur et grâce à cet illustrateur qui est J.H. Williams III. Oui.
Laurent Caissier, un mot sur l'aspect graphique de ce livre. En effet, pour redire encore, il y a des pages qui s'envisagent en double page uniquement. Il y en a qu'il faut lire à certains moments, des chapitres qu'il faut lire en mettant le livre à l'horizontale. Tout ça, ça peut paraître un peu presque tape à l'œil par moment, mais tout ça est extrêmement pensé par Moore et Williams.
Exactement. La vraie notion de style, c'est de faire adhérer son style, sa façon au propos. Et c'est bien le cas ici. Il adapte le graphisme à son propos, à la magie, à l'ascension dans l'arbre de vie, etc. Au tarot. L'épisode 12 dont vous parlez, il y a trois narrations différentes, qui est quand même une gageure. Hein. Il arrive à mener trois histoires différentes sur trois niveaux. Toutes les couvertures de Promethea rendent hommage à des styles graphiques différents, que ce soit des peintres classiques, comme il y a une parodie de la pochette du Sgt Pepper's des Beatles. Enfin, voilà, il tente des choses, mais aucune n'est gratuite, et on est presque vraiment dans de la bande dessinée expérimentale par moment. Et si on parle de Williams, je trouve que Moore choisit extrêmement bien ses collaborateurs en fonction du projet, et qu'une fois qu'il les a choisis, il se met aussi un petit peu à leur service, et quand on lit un peu les scripts dont vous parliez tout à l'heure, il s'adapte vraiment à leurs possibilités, leur laisse beaucoup de marge de manœuvre, et on voit là qu'avec Williams, il y a laissé vraiment la place d'exprimer ses délires, parce qu'il fallait trouver un collaborateur qui comprenne déjà bien tout ce que voulait Moore, et qui lui permette de laisser libre cours aussi à son imagination. Et c'est une des forces aussi de Moore que de dans son travail en duo comme ça, d'à chaque fois laisser la place et indiquer une marche à suivre assez vaste pour pouvoir permettre aux dessinateurs de briller. Et là, c'est vraiment le cas.
Alors parlons un peu de ce personnage de Promethea. François Hercouët, vous nous avez dit que c'était un personnage de fiction auquel s'intéressait une jeune étudiante qui fait donc une thèse sur ce personnage et qui va devenir une des incarnations de ce personnage, comme d'autres femmes avant lui, et même un homme qui, quand on s'y intéresse d'assez près, on devient Promethea. Est-ce que Promethea existait avant ce livre d'Alan Moore? Parce qu'il y a tout un jeu là-dessus, c'est assez étonnant. Dans les pages de la bande dessinée, les personnages parlent par exemple d'Hélène Cixous, que les Français connaissent, qui est une écrivain français, qui a écrit un livre de Promethea en 1983. Alors il est expliqué un petit peu, mais dans la préface, il y a beaucoup d'autres auteurs qui sont cités, qui auraient créé Promethea à la fin du XVIIIe siècle avec un poète américain, d'autres qui l'auraient repris dans les pulps des années 20, d'autres qui l'auraient repris dans les comics des années 60, et tout ça, en revanche, paraît faux. Enfin, je dis faux, peut-être qu'il faut plutôt dire imaginaire, François Hercouët.
Eh ben, en fait, je pense que c'est tout le propos de Promethea. En fait, c'est comme les faits, plus vous y croyez, plus elle existe. Donc après, c'est aussi un choix que vous pouvez faire. C'est une lecture interactive. Hein. Promethea, c'est très très puissant à ce niveau-là. Après, en termes d'histoire des comics, tout ce que vous dites en fait se rapporte en fait à l'introduction que l'on a choisi de publier en fait, qui était en fait la postface du premier numéro de Promethea par Alan Moore. Donc en fait, il aime bien chaque début de ses projets. Il place une note d'intention à la fin des premiers chapitres pour un petit peu donner du contexte. Et effectivement, on découvre un petit peu toute cette histoire. Alors, démêler le vrai du faux, je serais bien bien ennuyé en fait pour vous donner une réponse aussi claire que oui ou non. Le personnage effectivement donc a été cité dans la littérature française. Alors, je me rappelle à la lecture de cette préface avoir moi-même fait des recherches. Le problème,
mais oui,
c'est
on
que
le fait tous,
je
évidemment.
Ne saurais pas vous dire. Pardon ?
On le fait tous, évidemment, on a envie de vérifier. Alors avec Internet, c'est assez facile, on va vérifier qui a existé, qui n'a pas existé. Puis au bout d'un moment, on se perd et peut-être qu'en fait, l'important n'est pas là.
Voilà, c'est là où je voulais en venir, c'est voilà par rapport à ça, c'est que ce personnage c'est tout le propos hein, vraiment du livre, c'est la puissance du coup, la puissance du verbe, mais aussi la puissance de ceux qui croient en fait en certains mythes, qui peuvent leur donner du coup cette substance en fait dont on pense qu'ils peuvent manquer.
Laurent Cassis, ça c'est quelque chose auquel Alan Moore semble croire vraiment très fort, cette réalité de l'imaginaire d'une certaine façon. L'imaginaire, l'invisible est aussi réel que ce qu'on appelle habituellement le réel.
C'est ce qu'il appelle l'ID space, c'est-à-dire cet endroit où toutes les créations de l'esprit humain existent, coexistent. Et il exemplifie ça magnifiquement dans Prométhée. Sophie Banks, l'héroïne, pour devenir Prométhée, fait des recherches sur Prométhée et écrit sur Prométhée. C'est l'acte de création, l'acte artistique qui permet de devenir l'héroïne de sa propre vie, l'héroïne artistique aussi, de se confronter aux autres versions de Prométhée, etc. Il y a une espèce de mise en abîme vraiment très très puissante sur l'art et la magie comme ça dans toute la série Prométhée.
Alors, j'évoquais Hélène Cixous, c'est son livre de Prométhée qui est paru en 1983. Ce livre, c'est aussi une réflexion sur la féminité et cette bande dessinée d'Alan Moore, Prométhée, est aussi une réflexion qu'il a menée aussi dans d'autres livres sur les femmes, sur le côté féminin de la réalité. Mais c'est aussi un sujet sur lequel il reçoit parfois des critiques. On dit qu'il... Je ne crois pas qu'on taxe son œuvre de misogynie, mais il y a une réflexion sur les femmes, le côté féminin de la réalité qui est parfois critiqué. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus, Laurent Cassis ?
On l'a critiqué sur le traitement des femmes dans Watchmen, sur certains motifs récurrents de viol qui arrivaient. Souvent dans ce qui revenait souvent dans son œuvre, aussi notamment sur le traitement du le personnage de Barbara Gordon dans Sourier, là, l'histoire de Batman qu'il a écrite. Oui, on peut lui
reprocher. Killing Joke,
oui. Oui, c'est ça. On peut lui reprocher ça, sans doute. Mais il prouve aussi, et dans Lost Girls et dans Prométhée, que voilà, qu'il comprend, qu'il cherche à se confronter à ça. Hein. C'est un homme, il essaye de comprendre et sa partie féminine à lui, j'imagine, et puis aussi voilà les femmes qui l'entourent, de se frotter au féminisme. Je sais qu'il a été critiqué, c'était un peu... j'ai trouvé ça un peu... alors, on peut toujours, hein, mais vu la partie ensuite postérieure de son œuvre, c'était un peu malvenu, sans doute.
François Hercouette, les deux prochains volumes sont... Est-ce que vous avez déjà une date de sortie, puisqu'on les attend avec impatience quand on n'a pas lu l'œuvre qui était introuvable en français? Là, on est vraiment au milieu du guet. C'est pour quand le volume 2?
Eh bien, le volume 2 est déjà chez l'imprimeur, donc il sera disponible d'ici le mois de février ou de mars. Et puis, le troisième et dernier volume est attendu avant la fin 2021. Le temps, quand même, de pouvoir digérer un petit peu les deux premiers volumes.
Eh bien, formidable. C'est aussi le moment de saluer la traduction de Jérémy Manès, donc qui avait traduit une partie de Prométhée chez le précédent éditeur et qui a repris la traduction complète de l'œuvre. C'est la fin de cette émission. On n'a pas, bien sûr, pas tout dit sur ce livre magistral et ni encore moins sur Alan Moore, mais comme il est un artiste complet, je l'ai dit au début, il est aussi musicien et chanteur, et on se quitte avec sa voix sur une chanson qui s'appelle The Decline of English Murder.
She sorts out her hair in the washroom at Preston Services. Dries her hands under a notice that reads, "Have you seen this child?" And she nurses one tea for an hour in the cafeteria, watching the truck drivers blind their fried eggs with the cutlery.
Merci donc à tous les deux. Je rappelle donc le titre du livre dont on a parlé aujourd'hui, Prométhée, livre premier chez Urban Comics. Donc le second arrive et le troisième avant la fin de l'année. C'est une bonne nouvelle. Et Laurent Cassis, le titre de votre ouvrage avec Nicolas Trespalet, Le Guide Alan Moore aux éditions Actu SF. Les références de ces livres seront sur la page du Rayon BD sur franceculture.fr. Une page sur laquelle vous pouvez aussi réécouter et télécharger cette émission et les précédentes, chose que vous pouvez aussi faire grâce à l'application Radio France. Le Rayon BD était aujourd'hui préparé avec Gwendoline Troiano et Sophie-Catherine Gallet, réalisé par Alexandre Manzanares avec Jacques Azubert à la technique. Dans quelques instants, vous retrouvez Charles Danzig pour Personnage en personne.